إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on reprend ce soir la lecture et l'étude du livre Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous avons terminé par la grâce d'Allah, lors du dernier cours, les chapitres liés aux règles de la purification. Et on va commencer à partir de ce soir les chapitres liés aux règles de la prière. Comme vous le savez, la prière est le deuxième pilier de l'islam et le plus important pilier de l'islam après les deux attestations de foi. Elle est ce qui sépare l'homme de la mécréance. Comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce qui sépare l'homme du polythéisme ou de la mécréance, c'est la prière. Et dans un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Bureyda radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière, celui qui la délaisse a certes mécru. On voit donc à travers cela que la prière est d'une grande importance en islam, que ce n'est pas une chose à négliger. Et c'est une obligation pour tout musulman, pubère et doué de raison, et c'est même une obligation de l'ordonner aux enfants à partir de l'âge de 7 ans. Et ce, afin de les habituer à accomplir cette noble adoration, afin qu'ils puissent s'en acquitter de façon correcte une fois qu'ils auront atteint l'âge de la puberté. Et l'importance de la prière étant si grande dans notre religion, il est donc obligatoire pour nous d'apprendre ces règles afin de pouvoir faire cette prière de la meilleure manière. Et parmi ces règles, il y a l'apprentissage de ses conditions, l'apprentissage de ses piliers, ses obligations, l'apprentissage des choses qui sont recommandées durant la prière, l'apprentissage des choses qui annulent la prière, et ainsi de suite. Parmi les règles qu'il est nécessaire pour nous d'apprendre et que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé dans ce livre, comme on va le voir, et innillahi ta'ala. Il a donc commencé, il a dit, Kitab al-Salah, le livre de la prière. Puis il dit, rahimahullah, taqaddama anna at-taharata min shurutiha. Nous avons vu précédemment que la purification fait partie de ses conditions, c'est-à-dire des conditions de la prière. Le shir, rahimahullah ta'ala, il commence donc ici par citer des conditions de la prière. Et ce car les conditions, ce sont les choses à accomplir avant la prière et qui perdurent tout au long de celle-ci. Et la prière, elle ne peut pas être valide sans en remplir les conditions. Et la première des conditions de la prière qu'il a mentionnée ici, c'est la purification. Et on a vu dans les chapitres précédents les règles liées à cela et l'obligation pour le musulman qui souhaite accomplir la prière de se purifier. De se purifier du hadath, c'est-à-dire de l'état d'impureté, mineur par les ablutions et majeur par le ghusl, et de se purifier del khabath, c'est-à-dire de l'impureté physique, que ce soit sur son corps, sur ses vêtements, ou dans le lieu où il souhaite prier. Et on a mentionné les règles de cela en détail. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous mentionne d'autres des conditions de la prière, il dit, « Wa min shurutiha dukhul al-waqti » et parmi ces conditions, l'entrée du temps de la prière. Et ceci fait partie des conditions les plus importantes de la prière que le musulman ne doit pas négliger. C'est-à-dire que ces prières que tu dois accomplir, elles ont des temps. Et nous ne sommes pas libres de les accomplir comme bon nous semble, à l'heure que nous le souhaitons, ou comme certains le font quand ils ont un moment ou quand ils se libèrent. Mais ces prières, elles ont un temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, au verset 103 de Surat al-Nisa, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. Ce n'est pas seulement une obligation la prière, mais elle est obligatoire comment? En des temps déterminés. Il incombe donc aux musulmans d'accomplir chacune de ces prières en son temps. Et les temps des différentes prières, ils nous ont été détaillés dans de nombreux hadiths dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Il dit donc, والأصل فيه حديث جبريل. Et la base en cela, c'est le hadith de Jibril, c'est-à-dire la base au sujet de la délimitation des temps de prière, les moments ou les plages horaires durant lesquels sont légiférées les différentes prières. La base à ce sujet est le hadith de Jibril, alayhi salam. Annahu amma an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi awwal al-waqt wa akhirihi wa qala ya Muhammad as-salatu ma bayna hadayn al-waqtayn. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa at-Tirmidhi. Il dit donc que la base à ce sujet, au sujet des temps de prière, c'est le hadith de Jibril, qui a dirigé la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début du temps et en sa fin. C'est-à-dire à chacune des prières, il est venu au début du temps et en sa fin. Puis il lui a dit, oh Muhammad, la prière se trouve entre ces deux temps. C'est-à-dire elle se trouve dans cette plage horaire. Et ce hadith est rapporté par Ahmad an-Nasa'i et at-Tirmidhi rahimahumullahu ta'ala. Jibril alayhi salam, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier jour et lui a dirigé la prière du dhuhr lorsque le soleil commençait à décliner, c'est-à-dire après le zénith. Lorsque le soleil atteint son point culminant en haut du ciel, c'est ce que l'on appelle le zénith. À ce moment-là, il est interdit de prier et le zénith dure approximativement une dizaine ou une quinzaine de minutes. Ensuite, le soleil commence à décliner, c'est-à-dire qu'il redescend vers l'ouest. À ce moment-là, entre le temps de la prière du dhuhr. Ensuite, il lui a dirigé la prière de l'asr lorsque l'ombre de toute chose était égale à elle. C'est-à-dire que l'heure de la prière du asr, elle entre lorsque l'ombre de chaque chose est égale à elle. Et on va revenir sur cela, inshallah ta'ala. Ensuite, il a prié le maghreb au moment où les jeûneurs rompent le jeûne, c'est-à-dire au coucher du soleil. Puis il y a dirigé la prière de l'isha à la disparition du crépuscule. Puis il lui a dirigé la prière du Fajr lorsqu'il devient interdit aux jeûneurs de boire et de manger, c'est-à-dire au lever de l'aube. Il est venu ensuite le lendemain et il lui a dirigé la prière du Dhuhr lorsque l'ombre de chaque chose est égale à elle, c'est-à-dire en la fin de son temps. Le premier jour, il lui a indiqué les débuts des temps et le deuxième jour, la fin des temps de prière. Puis il a prié le Asr lorsque l'ombre de chaque chose équivalait au double de sa taille. Puis il a prié le Maghreb au moment où les jeûneurs rompent leur jeûne, c'est-à-dire à la même heure que le premier jour. Puis il lui a dirigé la prière d'Al-Aïcha à la fin du premier tiers de la nuit. Et enfin, il lui a dirigé le Fajr lorsque le soleil était très jaune, c'est-à-dire peu avant son lever. Puis il s'est tourné vers lui et lui a dit, « Oh Muhammad, ceci sont les temps des prophètes avant toi, et le temps, c'est-à-dire le temps de la prière, se trouve entre ces deux temps. » On voit donc à travers ce hadith que lorsqu'on dit que la prière elle a un temps, cela signifie que la prière a une plage horaire durant laquelle il convient de l'accomplir. Car il y a certaines personnes, lorsqu'on leur dit qu'il est obligatoire d'accomplir la prière en son temps, ils pensent par exemple que lorsqu'il est écrit sur le calendrier que le dhuhr est à 12h52, il doit accomplir le dhuhr à 12h52. Exactement. Et que s'il ne l'accomplit pas à cette heure-ci, alors il a retardé la prière de son temps. Or, ceci est une erreur d'incompréhension. Ce qui est visé par la prière en son temps, c'est de l'accomplir dans sa plage horaire. Et sa plage horaire, elle est telle que vous venez de l'entendre dans ce hadith. Le temps du dhuhr, il dure jusqu'à la venue de la prière de l'asr. Le temps de l'asr, il dure jusqu'à la prière du maghreb. Le temps du Maghreb jusqu'à la prière du Isha, et le temps du Isha, comme on va le voir dans le hadith suivant, jusqu'au milieu de la nuit. Quant au temps du Fajr, lui il dure jusqu'au lever complet du soleil. Et le Shir, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné clairement le temps de chaque prière. Il dit, « Wa an Abdillah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal. » Donc d'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Waqtu al-dhahri, idha zalati shamsu, wa kana dhillu al-rajuli katulihi. » Le temps du dhahr commence lorsque le soleil décline et dure jusqu'à ce que l'ombre de l'homme soit égale à sa taille. Lorsque le soleil décline, on a dit, c'est lorsqu'il commence à redescendre en direction de l'ouest. Et on reconnaît ce moment comment? lorsque l'ombre de la personne recommence à grandir. Car le matin, une fois que le soleil se lève, l'ombre de la personne, elle diminue de plus en plus. Plus le soleil monte vers le zénith, plus l'ombre de la personne diminue. Et lorsqu'il recommence à décliner, l'ombre recommence à grandir. Donc à partir du moment où l'ombre commence à grandir, ceci nous indique que le temps du dhohr est entré. Mais ici, il est important de comprendre que lorsqu'il est dit dans le hadith que l'ombre de l'homme est égale à sa taille, on doit ajouter à la taille de cette ombre l'ombre qui était présente au moment du zénith. Car ce n'est pas en toute saison et en tout endroit sur le globe qu'au moment du zénith, il n'y aura plus d'ombre. Mais si tu prêtes attention à cela, tu verras qu'au moment du zénith, les choses qui sont tenues droites sur le sol, les arbres ou les personnes ou les poteaux ou autres, ils ont une légère ombre. Plus le soleil monte vers le zénith, plus l'ombre diminue. Jusqu'au moment du zénith où il reste une légère ombre à la personne ou aux objets. Ensuite, une fois que le soleil décline, l'ombre commence à grandir. À ce moment-là, le temps du dhohr est entré. Et lorsque l'ombre sera de la taille égale à la taille de la personne, en ajoutant cette ombre qui était présente au zénith, alors le temps du dhohr est terminé. Et entre le temps de l'asr. Pour donner un exemple concret avec des chiffres afin que cela soit clair, si on suppose que l'on a un bâton planté dans le sol, et qu'il mesure 2 mètres. Au moment du zénith, on observe qu'il reste une ombre de 50 cm. Puis l'ombre commence à grandir, le temps du dhohr est entré. Et on a dit que le temps du dhohr, il durait jusqu'à ce que l'ombre soit égale à sa taille. C'est-à-dire, on a dit le bâton, il fait 2 mètres. Donc il faut que l'ombre mesure 2 mètres, plus les 50 cm que l'on avait au zénith. Donc une fois que l'ombre sera égale à 2,50 m, le temps du dhohr est terminé. Et entre le temps de la prière de l'Asr. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le temps de la prière du dhohr commence lorsque le soleil décline jusqu'à ce que l'ombre de l'homme soit égale à sa taille, tant que l'Asr n'est pas entré. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa waqtu l'Asr, ma lam tasfar shams. Et le temps de l'Asr dure de ce moment-là, de la fin du temps du dhohr, jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et ceci a lieu à l'approche du coucher du soleil. On pourrait donc comprendre de cela que le temps de l'Asr, il se termine avant l'entrée de la prière du Maghrib. Mais en réalité, il est venu dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteint une unité de la prière de l'aube, avant que le soleil se lève, il a certes atteint la prière de l'aube. Et celui qui atteint une unité de la prière de l'Asr, avant que le soleil se couche, c'est-à-dire avant l'entrée du temps de la prière de l'Maghrib, il a certes atteint la prière de l'Asr. Et ce hadith, il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc, comment réunir entre ces deux hadiths? Entre le premier, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le temps de la prière de l'Asr dure jusqu'à ce que le soleil jaunisse, c'est-à-dire quelque temps avant le coucher du soleil, et dans celui-ci où il nous dit que celui qui prie une raka'a, une unité, de la prière de l'Asr avant le coucher du soleil, alors il a atteint la prière de l'Asr. La réponse est que le temps de la prière de l'Asr, il se divise en deux. Il y a un temps qui est préférable et qui est la base pour celui qui n'a aucune excuse pour la retarder. Et c'est dès son entrée jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et il y a un temps qui est permis en cas de nécessité. Si la personne ne peut pas accomplir la prière de l'Asr dans le début de son temps avant que le soleil jaunisse, alors il lui est permis d'accomplir à ce moment la prière après que le soleil jaunisse et avant qu'il ne se couche. C'est-à-dire que ceci ne doit avoir lieu qu'en cas de besoin, de nécessité. Et cela ne doit pas être une habitude, car la base est que la prière de l'Asr doit être accomplie avant que le soleil jaunisse. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa waqtu salat al-maghrib ma lam taghib al-shafaq. Et le temps de la prière del maghrib dure jusqu'à la disparition du crépuscule. Il commence donc au coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le disque solaire disparaît complètement, et il dure jusqu'à la disparition du crépuscule, c'est-à-dire la lueur rouge que tu observes à l'horizon après le coucher du soleil. Une fois que cette lueur rouge a disparu, le temps de la prière du Maghreb est terminé, et le temps de la prière de l'Isha est entré. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa waqtu salati al-isha ila nisf al-layl. Et le temps de la prière de l'Aïcha dure jusqu'au milieu de la nuit. Donc on a dit que le temps de la prière de l'Aïcha est l'entrée à la disparition du crépuscule, à la fin de la prière de l'Maghrib. Et il dure, il nous dit, jusqu'au milieu de la nuit. Et comment savoir à quoi correspond le milieu de la nuit? Car certaines personnes qui pensent que le milieu de la nuit, c'est forcément minuit. Or, ce n'est pas forcément le cas. Cela diffère selon les saisons, selon les endroits, et ainsi de suite. Et le milieu de la nuit, il se calcule en comptant le nombre d'heures qu'il y a entre le Maghreb et le Fajr, entre le coucher du soleil et son lever. Ensuite, tu divises ce temps en deux et tu auras alors trouvé le milieu de la nuit qui est la fin de l'heure du Isha. À titre d'exemple, disons qu'en ce moment, le Maghreb est approximativement à 17h30 et que le Fajr est approximativement à 7h. Je donne des horaires fictifs, simplement à titre d'exemple et d'approximation. Donc, de 17h30 jusqu'à 7h du matin. Combien d'heures avons-nous? On a 13h30, 6h30 de 17h30 à minuit et 7h de minuit à 7h du matin. Donc, le milieu de la nuit, il se calcule à la moitié de cela. 13h30 divisé par 2, cela nous fait 6h et 45 minutes. On ajoutera donc 6h et 45 minutes à l'heure du Maghreb. On a dit le Maghreb à 17h30, on ajoute 6h et 45 minutes, cela nous donne minuit 15. Donc dans cette situation, le milieu de la nuit serait minuit 15, et c'est à ce moment-là que le temps de la Isha est terminé, et n'est pas permis de l'accomplir après ce temps. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa waqtu salati subhi min tulu' al-fajr ma lam tatlu' al-shams » Et le temps de la prière de l'aube commence à la levée de l'aube jusqu'à ce que le soleil se lève. La levée de l'aube, ce qui est visé par celle-ci, c'est l'aube véridique, car il y a une aube qui est mensongère et qui se distingue dans sa forme de l'aube véridique. L'aube mensongère, elle se dirige vers le haut, c'est une lueur qui apparaît et qui se dirige vers le haut. Alors que l'aube véridique, c'est le fil blanc que tu observes à l'horizon, à l'est, et qui s'étend du nord au sud. Ceci est l'aube véridique et c'est l'entrée du temps du Fajr. Et le Fajr, il dure jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire jusqu'au lever complet du disque solaire. Ceci sont donc les temps de prière qui nous sont venus dans ce hadith qui, comme l'a dit l'auteur, est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « وَيُدْرَكُ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكَعَةِ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Il dit « La prière est atteinte lorsque l'on atteint une unité de celle-ci. » D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui a atteint une unité de la prière, il a certes atteint la prière. » Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc comme on l'a vu dans le hadith précédent, celui par exemple qui se lève alors que le soleil est sur le point de se lever, n'a pas entendu son réveil, s'est levé en retard, et le soleil est sur le point de se lever, il fait ses ablutions et accomplit la prière. S'il atteint une unité de la prière, c'est-à-dire une unité complète, du takbir jusqu'à la deuxième prosternation et qu'il l'a terminée, alors il a atteint la prière, c'est-à-dire qu'il a fait la prière dans son temps. Il n'est pas considéré comme ayant rattraper sa prière, mais il l'a bel et bien accompli dans son temps. Et de la même manière, en ce qui concerne la prière en commun, celui qui se rend à la mosquée est atteint de la prière en commun une unité, alors celui-ci a atteint la prière en commun. Et il en est de même en ce qui concerne la prière du Jumu'ah. Celui qui est en retard à la prière du Jumu'ah et qui arrive à la deuxième unité de la prière, avant l'inclinaison, alors celui-ci il a atteint la prière du Jumu'ah. Il va donc, après les salutations de l'imam, se lever et rattraper une seule unité, car il a atteint la prière du Jumu'ah. Par contre, s'il arrive, après que l'imam se soit relevé de l'inclinaison, de la deuxième unité, alors il n'a pas atteint la prière. Et dans ce cas-là, il devra accomplir la prière du Dhuhr en quatre unités, et non pas la prière du Jumu'ah, car il n'a pas atteint la prière. En effet, pour atteindre la prière, il est indispensable d'atteindre au moins une unité. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَا يَحِلُّ تَأْخِيرُهَا أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ. Et il n'est pas permis de la retarder ou d'en retarder une partie de son temps, que ce soit avec ou sans excuse. Et ça, c'est très important. Car, comme on vient de mentionner que en atteignant une unité de la prière, on a atteint la prière, certaines personnes pourraient avoir dû laisser aller à ce sujet et accomplir les prières à la fin de leur temps. Or, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit il n'est pas permis de la retarder, de retarder la prière. Car comme on a vu, elle a un temps déterminé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta » La prière demeure pour les croyants une obligation en des temps déterminés. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte à ce sujet d'après Abu Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas de négligence dans le sommeil, c'est-à-dire si la personne dort, qu'elle a fait les causes pour se réveiller au temps de la prière, mais qu'elle ne s'est pas réveillée, sans négligence de sa part. Alors, ceci n'est pas considéré comme de la négligence, car elle ne contrôle pas sa personne lorsqu'elle dort. » Il dit « Mais la négligence, c'est celui qui ne fait pas la prière jusqu'à ce que vienne le temps de la prière suivante. » C'est-à-dire qu'il laisse volontairement la prière sortir de son temps. Et ceci est strictement interdit. Et il faut noter que certains savants, au vu des hadiths que l'on a mentionnés au début de cours, mentionnant la mécréance de celui qui délaisse la prière, ont soutenu que celui qui délaisse par négligence une seule prière volontairement en la laissant sortir de son temps, alors il est sorti de la religion de l'islam. Ceci est un des avis parmi les avis de gens de science. Ceci nous montre donc la gravité de ce péché. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il nous dit, n'est pas permis de la retarder, quelle que soit la situation. Il dit, li'udhrin au ghayrihi, que ce soit en raison d'une excuse ou autre. Quelle que soit la raison, il n'est pas permis de la retarder. Ensuite, il donne une exception à cela. Il dit, illa idha akharaha liyajma'aha ma'a ghayriha, sauf s'il la retarde pour la réunir à autre qu'elle. C'est-à-dire à la prière suivante dans le cas où il est permis de réunir cette prière avec la suivante, comme par exemple de retarder le dhuhr afin de le réunir avec l'asr, ou alors de retarder le maghreb pour le réunir avec le isha. Ceci sont les seules prières qu'il est permis de réunir, le dhuhr avec l'asr et le maghreb avec le isha. Dans quelles conditions? Le cheikh nous dit فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ. Ceci est permis en cas d'excuse. Quelles sont ces excuses? Il nous dit min safar, au matar, au marad, au nahwiha. Il dit comme le voyage, la pluie, la maladie et autres choses semblables. En ce qui concerne le voyage, c'est-à-dire qu'il est permis aux voyageurs de réunir le dhuhr avec l'asr et de réunir le maghreb avec l'isha. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'après Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Lorsque le prophète voyageait avant le déclin du soleil, c'est-à-dire avant l'entrée du dhuhr, alors il retardait le dhuhr jusqu'au temps de l'asr, puis il les réunissait. » C'est-à-dire qu'il repoussait la prière du dhuhr au temps du asr et réunissait entre ces deux prières. Et on verra les détails au sujet de la prière du voyageur lorsqu'on en arrivera au chapitre traitant de ce sujet. Ensuite il dit « Ou la pluie ». C'est-à-dire qu'en temps de pluie, il est permis à l'imam, afin de faciliter aux prières, de réunir entre les prières. Et ce, comme on le comprend du hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a réuni le dhuhr et le asr, ainsi que le maghreb et l'isha, à Médine, sans raison de peur ou de pluie. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. On pourrait se dire, mais comment ce hadith nous prouve qu'il est permis de réunir les prières en temps de pluie? Le Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit, il nous fait comprendre que la réunion des prières en temps de pluie était connue au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si ce n'était pas le cas, alors il n'y aurait eu aucun intérêt à nous mentionner que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ait fait en l'absence de pluie. Ceci nous prouve donc que la réunion des prières était pratiqué en temps de pluie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala rapporte dans Al-Muwatta d'après Nafi' rahimahullah qu'Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque les gouverneurs dirigeaient entre le Maghreb et l'Isha, en temps de pluie, ils réunissaient les prières avec eux. Et nombre de gens de science ont mentionné l'unanimité quant à la permission à ce sujet. Également, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit où la maladie. C'est-à-dire que le malade qui a des difficultés à faire des mouvements, ou alors qui a des difficultés pour se purifier, il lui est permis de réunir entre les prières. Il peut réunir le dhuhr avec l'asr et réunir le maghreb avec l'isha. Si par exemple, il n'a pas la possibilité de se purifier pour chaque prière, mais il peut se purifier pour le dhuhr et pour le maghreb, se purifier avec de l'eau. Dans ce cas-là, il se purifiera et priera le dhuhr et l'asr, et au moment du maghreb, il priera le maghreb et l'isha. Et on reviendra sur tous ces détails au moment des chapitres liés au sujet de la réunion des prières et la prière des personnes aux différentes excuses comme la maladie. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit autre chose semblable. Par exemple, les savants ont mentionné, en cas de vent glacial, il est permis à l'imam de réunir entre les prières et ainsi de suite. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَالْأَفْضَلْ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا » Et le mieux est de faire la prière au début de son temps. On a vu que la prière, elle était légiférée dans une plage horaire. Le dhuhr jusqu'à la prière de l'asr. Le asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse ou en cas de nécessité jusqu'au maghreb. Le maghreb jusqu'à la disparition du crépuscule. Le isha jusqu'au milieu de la nuit. Et le fajr du lever de l'aube véridique jusqu'au lever complet du soleil. Donc ceci sont les plages horaires pour accomplir les prières. Et le mieux, il nous dit, c'est de le faire au début de son temps, c'est-à-dire au début de la plage horaire. Et ce, d'après la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fastabiqul khayrat » et « Empressez-vous dans les bonnes œuvres ». Et aussi, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'œuvre la plus aimée d'Allah. Il lui répondit sallallahu alayhi wa sallam « La prière à son heure ». Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Donc le mieux, ce qu'il y a de plus méritoire est d'accomplir la prière au début de son temps. Il dit, rahimahullah, illa, sauf, il nous mentionne des exceptions, al-Isha, idha lam yashuq, sauf pour la prière d'al-Isha s'il n'y a pas de difficulté en cela. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapportent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, retardait la prière du Isha jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit. Donc de la même manière que l'on a calculé le milieu de la nuit tout à l'heure, on peut calculer le tiers de la nuit en divisant le temps en 3. Donc à la fin du premier tiers, ceci est le temps préférable et méritoire pour accomplir l'Isha. Mais il nous dit, rahimahullah, s'il n'y a pas de difficulté en cela. C'est-à-dire s'il n'y a pas de difficulté en cela pour la personne, si elle est chez elle, en ce qui concerne les femmes, si elles sont chez elles et qu'elles prient seules. Si elles peuvent le faire, alors ceci est plus méritoire et préférable. Mais si cela est difficile ou que cela cause d'autres gênes, alors on l'accomplira au début de son temps. Et il en est de même pour l'imam. Ceci est ce qu'il y a de préférable, mais s'il sait que cela cause une gêne aux fidèles qui prient derrière lui. Il y a des personnes âgées, des personnes malades, des personnes qui ont des difficultés à rester réveillées jusqu'à ce moment-là. Alors, dans ce cas-là, il accomplira la prière au début de son temps. Ensuite, il dit, rahimahullah, nous mentionnons une deuxième exception, il dit, « Wa illa dhuhr fi shiddatil har » et à l'exception du dhuhr en cas de grande chaleur. Donc c'est pas le dhuhr toute l'année, mais seulement le dhuhr en cas de grande chaleur. Ensuite, il nous mentionne la preuve, et il dit « قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Lorsque la chaleur est intense, alors rafraîchissez la prière. » Qu'est-ce que cela signifie « rafraîchissez la prière » Ça veut dire retardez-la jusqu'à ce que la chaleur soit moins intense, jusqu'à ce qu'il y ait un peu d'ombre et que la chaleur soit redescendue. Il dit car la chaleur intense est un des souffles de l'enfer. Les gens de science ont donc dit, expliquant ce hadith, qu'il est légiféré de retarder la prière du dhuhr jusqu'à ce que la chaleur redescende en cas de forte chaleur. Et ceci est valable aussi bien pour l'imam qui accomplit la prière à la mosquée, de la retarder afin de faciliter aux fidèles qu'ils viennent à un moment où la chaleur sera redescendue, mais également pour ceux qui prient seuls ou à leur domicile. C'est-à-dire qu'il est permis à la femme, en cas de forte chaleur, d'attendre que la chaleur redescende afin d'accomplir le dhuhr. Et ceci sont donc les deux exceptions à la règle générale qui est que le plus méritoire est d'accomplir la prière au début de son temps. Sauf l'Aïcha, s'il n'y a pas de difficulté, et sauf le dhuhr, en cas de forte chaleur. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاهُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا. Et celui qui manque une prière, il est obligatoire pour lui de la rattraper immédiatement et dans l'ordre. Par exemple, une personne ne s'est pas réveillée pour la prière du Fajr. Il ne s'est levé qu'après le lever du soleil. Alors il est obligatoire pour lui de prier dès qu'il se lève. Il ne doit pas retarder cela. De la même manière, si une personne a fait la sieste en fin de matinée, il ne se lève qu'à l'heure de l'Asr. Alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui d'accomplir immédiatement la prière du Dhuhr. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. D'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui oublie une prière, il était occupé au point d'en oublier la prière, alors qu'il l'a prie dès qu'il s'en rappelle, et il n'a pas d'autre expiation que cela. Et dans une autre narration du hadith, celui qui dort durant une prière ou l'oublie alors qu'il l'a prie dès qu'il s'en rappelle. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'accomplir cette prière dès que la personne s'en rappelle, immédiatement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas retarder cela. Il ne doit pas se dire, de toute façon le temps est passé, je l'accomplirai plus tard. Non, il doit l'accomplir immédiatement. Au moment où il s'en rappelle, il s'empresse de faire les causes, de se purifier, ainsi de suite, pour accomplir cette prière. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, et il l'accomplit dans l'ordre, immédiatement et dans l'ordre. Cela signifie que s'il a manqué plusieurs prières, à supposer qu'il se soit endormi avant la prière du dhuhr et ne se réveille qu'après le coucher du soleil. Il doit donc accomplir ses prières dans l'ordre, en commençant par le dhuhr, puis le asr, puis le maghrib. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, au sujet de ce qui s'est produit durant la bataille du fossé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ont été tellement pris par le combat qu'ils n'ont prié qu'après le maghrib. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'iqama pour le dhuhr, et ils ont prié le dhuhr de la même manière que s'il l'avait pris en son temps. Puis il a fait l'iqama pour le asr, et il a prié le asr de la même manière que s'il l'avait prié dans son temps. Puis il a fait l'iqama pour le maghrib, et ils ont accompli la prière du maghrib. On voit donc qu'il a rattrapé les prières dans l'ordre dans lequel elles sont légiférées. Et également on voit qu'il les a accomplies de la manière où elles sont accomplies dans leur temps. C'est-à-dire que si une personne a manqué la prière du Fajr, il est légiféré de l'accomplir à voix haute. Donc s'il la rattrape durant la journée, il la fera tout de même à voix haute. La prière du Dhuhr, il est légiféré de la prier à voix basse. Mais si la personne l'a manqué, l'a oublié, ou dormait durant celle-ci, sans négligence, ne s'est réveillé qu'après le coucher du soleil, il la rattrapera, comme il est venu dans ce hadith, de la même manière que s'il l'avait prié dans son temps, c'est-à-dire à voix basse. Puis le shir, rahimahullah ta'ala, nous donne une exception concernant le respect de l'ordre et il dit: فَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيبُ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاضِرَةِ. Et s'il oublie l'ordre, ou qu'il l'ignore, ou qu'il a peur de manquer la prière, c'est-à-dire la prière qui est dans le temps où il s'en est rappelé ou il s'est réveillé, alors, il est excusé pour l'ordre entre elle et la prière présente. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne trois situations où l'ordre, il n'est pas obligatoire de le respecter. La première situation, c'est si la personne a oublié. Par exemple, a supposé qu'une personne se lève à l'heure du asr et fait la prière de l'asr en oubliant qu'elle dormait depuis avant la prière du dhuhr. Dans ce cas-là, elle aura fait la prière de l'Asr, puis après avoir terminé la prière du Asr, elle se rappelle qu'elle n'a pas pris le Dhuhr aussi. Elle va donc rattraper le Dhuhr. Et il n'y a pas de gêne en cela, du fait qu'elle ait fait précéder l'Asr, car ceci est un oubli. Le deuxième cas, ou la deuxième situation, dans laquelle la personne est excusée pour ne pas respecter l'ordre, c'est si elle ignore l'ordre, ou qu'elle ignore l'obligation de l'ordre. Elle ne sait pas que c'est une obligation. Elle se réveille au moment du Maghreb, prie le Maghreb, et ensuite, par exemple, rattrape le Asr, puis rattrape le Dhuhr. Puis après, elle apprend que c'est une obligation de les accomplir dans l'ordre lorsqu'on les a manqués. Dans ce cas-là, elle est excusée. Et la preuve concernant ces deux premières situations, C'est la généralité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au verset 286 de Sourate Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte que lorsque ce verset a été révélé, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je l'ai certes fait. C'est-à-dire qu'il a accepté cette invocation. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc si la personne oublie ou ignore, alors dans ce cas-là, elle est excusée. La troisième situation, c'est si la peur de manquer la prière présente. Donc toujours le même exemple, la personne qui s'est endormie avant le dhuhr et ne s'est réveillée qu'après le coucher du soleil, sans négligence. Personne ne l'a réveillée, elle était seule, elle avait mis un réveil mais ne l'a pas entendue. Elle se réveille après le coucher du soleil, à l'approche de la disparition du crépuscule, c'est-à-dire quelque temps avant l'entrée du temps de la prière de l'Aïcha. Dans ce cas-là, elle commencera par accomplir la prière présente, c'est-à-dire la prière du Maghreb. Car ceci est son temps et il va bientôt sortir. Et elle peut encore l'accomplir en son temps si elle ne fait que cette prière. Donc elle commencera par celle-ci. Puis après celle-ci, elle rattrapera le dhuhr, puis l'asr. Elle respectera l'ordre concernant les prières précédentes. Mais elle aura fait précéder la prière présente afin de ne pas la faire sortir de son temps. Et certains ont mentionné que c'est aussi le cas concernant la prière en commun. Par exemple, la personne s'est endormie avant le dhuhr et ne se réveille qu'au moment de l'asr. Elle entend la dinde du asr et se réveille, se purifie, se rend à la mosquée et ils ont dit alors que ceci est une excuse pour faire précéder l'asr à la prière du dhuhr. Mais en réalité, dans cette situation, qu'est-ce que la personne va faire? Elle va prier derrière l'imam qui accomplit l'asr en ayant l'intention, elle, de prier la prière du dhuhr. Et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. C'est-à-dire que tu entres en prière derrière l'imam en ayant l'intention de prier la première prière que tu dois accomplir. C'est-à-dire, dans cette situation, la prière du dhuhr. Puis après cela, il rattrapera la prière de l'asr. Ceci sont donc les trois cas dans lesquels il est permis de ne pas respecter l'ordre dans le rattrapage des prières qui sont manquées sans négligence en raison du sommeil ou de l'oubli. Et la base, comme on a dit, est qu'il n'est pas permis à la personne de faire sortir la prière de son temps. On a donc terminé concernant les questions liées à cette condition qui est l'obligation de l'entrée du temps de prière pour pouvoir accomplir la prière, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de l'accomplir avant l'entrée de son temps, et de la même manière, il n'est pas permis de l'accomplir après la sortie de son temps. Car le temps est une des conditions de validité de la prière. Si elle est accomplie sans excuse, en dehors de son temps, que ce soit avant l'entrée du temps ou après la sortie du temps, alors la prière n'est pas valide. On va donc s'arrêter là pour ce soir, et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, la suite des conditions de la prière. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.